comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué la pensée économique. Aujourd'hui, nous allons parcourir les pages de l'ouvrage Testament d'Anthony Atkinson, un essai sobrement intitulé « Inégalité ». Et pour ce faire, nous recevons Pierre Concialdi. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, l'IRES. Alors, « Inégalité » est le dernier ouvrage d'Anthony Atkinson. Et selon Thomas Piketty, qui a été son élève, c'est aussi le plus personnel. C'est également votre avis ?
Oui, il est personnel dans la mesure où il tranche pas sur la le fond, mais sur la forme, avec tout ce qu'a écrit Atkinson, qui était connu pour ses ouvrages, ses nombreux ouvrages académiques, ses centaines d'articles aussi académiques sur le sujet. Là, il s'adresse au grand public, donc oui. C'est ça qui est nouveau dans la démarche.
Et c'est aussi l'ouvrage dans lequel il formule les propositions les plus radicales.
Alors radical, comme il le dit souvent dans son livre, c'est un mot que certains emploieront sans doute, mais lui montre que justement tout cela n'a finalement rien de radical, et que c'est juste peut-être remettre un tout petit peu des choses à l'endroit, notamment en matière d'inégalité.
Alors comment présenter d'abord Anthony Atkinson en quelques mots, Pierre Concialdi?
Bon, Atkinson, en fait, il est né en 44, voilà, il a commencé sa carrière universitaire dans le milieu des années 60, en 1966. Il est aussi connu pour un indice qu'il a construit, qui s'appelle l'indice d'Atkinson, qui est aussi, qui est en fait le même que celui construit par un chercheur français qui s'appelle Kolm, et qui présente la particularité de ne pouvoir être utilisé que si on entre, comme on dit, l'aversion pour l'inégalité.
Qu'est-ce que ça signifie?
On a une certaine préférence par rapport à une distribution. On préfère que les transferts qui vont plutôt vers les riches ou vers la classe moyenne. Et donc, ça, c'est implicite quand on utilise un indice d'inégalité. Il y a toujours une fonction de pondération, en fait, de ce genre de choses. Et Atkinson a construit un indice qui rend explicite tout cela. Et l'autre particularité qui est aussi très intéressante, c'est que il a une interprétation très, très simple, cet indice. C'est-à-dire, si l'indice d'Atkinson vaut 0,2, 20%, ça veut dire que si tous les revenus étaient répartis de façon inégalitaire, on pourrait avoir le même bien-être social avec un revenu global inférieur de 20%. Autrement dit, il y a un coût social des inégalités. C'est comme ça qu'on le présente dans la littérature.
Et alors Atkinson est connu véritablement pour avoir été un pionnier justement dans l'étude des inégalités. C'est dès les années 60 qu'il essaye d'expliquer un certain nombre d'inégalités en s'appuyant notamment sur l'histoire.
Oui, si on reprend les trois domaines que définissait Schumpeter pour qualifier ce que représentait l'économie scientifique, c'est-à-dire l'histoire des faits, la statistique et la théorie, on peut dire que Atkinson a été un économiste complet, parce qu'il a effectivement eu des apports majeurs sur chacun de ces champs. Un de ses premiers ouvrages, c'est sur la distribution des patrimoines de la richesse au Royaume-Uni, où il a déjà, avec un collègue, compilé des tas de statistiques, d'archives pour d'une part restituer l'image de cette évolution, et puis en donner aussi des clés d'interprétation.
Alors, venons-en maintenant à l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, donc intitulé « Inégalité ». La première partie de cet ouvrage est consacrée au diagnostic. Atkinson montre comment les inégalités ont recommencé à augmenter à partir des années 80 dans certains pays, à commencer par les États-Unis. Alors, comment l'économiste britannique explique-t-il ce phénomène, Pierre Concialdi ?
Il l'explique de plusieurs façons. Il y a plusieurs phrases qui reviennent souvent dans l'ouvrage. C'est qu'Atkinson dit en début d'ouvrage, l'économie c'est pas une science naturelle, c'est le produit de résultats de décisions humaines, politiques, d'organisations internationales, etc. Et c'est aussi le résultat de rapports de force qui peuvent changer. Et donc, par rapport à la question que vous posez, ce que montre Atkinson, c'est que ce rapport de force, il s'est construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur un consensus qui était celui qu'on appelle les politiques keynésiennes, pour aller vite, de la mise en place notamment des assurances sociales, de certain nombre de régulations sur le marché du travail, et que ce rapport de force a changé à la fin des années 70. Alors, les retournements sont différents selon les pays, bien sûr, et les phénomènes sont pas non plus de même ampleur, mais dans l'ensemble, la tendance, quand on la regarde sur une très longue période, elle est quand même la même dans tous les pays. Et c'est ce changement de rapport de force qui explique finalement le retournement vers une croissance des inégalités, pas dans tous les pays, et pas de même ampleur dans tous les pays, mais vers cette inégalité croissante.
Il y a un aspect intéressant dans cet ouvrage d'Atkinson, c'est que pour lui, l'égalité de chance ne suffit pas. Il faut un degré d'égalité de résultat. C'est un aspect important de cet ouvrage.
Oui, il commence son ouvrage là-dessus. L'égalité des résultats, c'est un moyen pour aboutir à l'inégalité des chances, parce qu'on sait que s'il y a inégalité des résultats ou trop forte inégalité des résultats, ça va avoir un impact sur les conditions de départ, notamment des jeunes générations. Ah, il y a une reproduction des inégalités, pour le dire autrement. Mmh. Et donc lui, il renverse un petit peu le raisonnement qu'on a souvent en disant c'est la condition nécessaire, l'égalité des résultats, en tout cas une certaine égalité, pour avoir l'égalité des chances.
Et puis il refuse peut-être cette idée d'une vie sociale vue comme une compétition avec des gagnants qui seraient peut-être trop rémunérés à la fin de ce jeu.
Et ce sur quoi il met la différence, c'est que il insiste, c'est de dire que la structure des récompenses, comme il dit, doit être équitable. Je vais l'illustrer par une formule qui revient souvent dans la bouche de certains économistes, c'est « the winner takes all », le gagnant prend tout. Pourquoi ne pas rester dans un schéma de concurrence? Mais il faut que la structure des récompenses soit pas si excessivement inégalitaire qu'elle empêche les autres, au moins, d'aboutir à des conditions de vie décentes.
Alors, il y a un deuxième grand facteur d'inégalité pour Atkinson et qu'il met en valeur dans son ouvrage, c'est la transformation technologique. En quoi la révolution numérique aggrave-t-elle les inégalités, selon lui, Pierre Concialdi?
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un facteur dont on parle très peu, en fait, quand on parle d'inégalité. Ce qu'il explique en très résumé, c'est qu'on est dans un système où les choix technologiques sont pas maîtrisés collectivement. Et dans la longue durée, on observe des choix technologiques qui se traduisent par une augmentation du rapport entre capital et travail, qui pèse, disons, sur la répartition macroéconomique du revenu. Mmh. Et ce qu'il explique également, c'est que ces changements technologiques, ils ont aussi une incidence sur la composition de ce qu'on produit. Donc lui prend l'exemple des robots qui vont sur des chaînes automobiles peindre à la place d'hommes. Il dit bon, ça on peut peut-être l'accepter parce qu'on conçoit que ça économise du travail. La vraie question, comme il le dit aussi, c'est à qui appartiennent ces robots? Comment doit être partagé, comme on dit, ces fruits de productivité?
Ça peut même libérer du travail éventuellement.
Ça libère du travail, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la vraie question. Voilà. Et il prend aussi l'exemple parce qu'on... On parle de l'industrie quand on parle robotisation, mais on est dans une société où on consomme de plus en plus de services. Et cette dimension humaine, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit dans ce qu'on produit, il faut préserver, inclure de plus en plus cette dimension de service humain, comme il dit. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre collectivement autant que possible, la main sur ses choix technologiques.
Plus largement, il cherche véritablement à démontrer dans cet ouvrage, et d'ailleurs dans l'intégralité de son œuvre, que l'économie, c'est une science morale et sociale. Et c'est pour cela qu'il a critiqué un certain nombre de ses collègues, que ce soit dans cet ouvrage ou dans d'autres, Pierre Concialdi.
Disons que c'est un économiste qui affiche ses préférences. Voilà, c'est ce qui est aussi d'atypique dans ce livre, alors que les économistes en général font comme s'ils n'en avaient pas. Bon, on en a tous. Et lui, il a des préférences morales très clairement affichées, qui sont difficilement réfutables, à mon avis. Et c'est ce qui le conduit à formuler un certain nombre de propositions. Sur la technologie, il a une formule. Il dit, ça ne vient pas des dieux, la technologie. C'est le résultat de choix humains. Et donc, on a la capacité d'agir sur ce choix humain.
Vous l'avez dit, Pierre Concialdi, Atkinson formule un certain nombre de recommandations dans cet ouvrage, des recommandations donc pour lutter contre les inégalités, et il propose notamment de créer un héritage universel qui serait versé à la majorité, ainsi qu'un revenu de base pour les enfants qui existerait à l'échelle européenne. C'est ainsi que l'on parviendra, selon lui, à une véritable égalité des chances.
Oui, je pense que Atkinson, comme il a une vision moins simpliste de la réalité, un de ses messages qui parcourt son livre, c'est il faut pas se limiter à ce qui se passe sur la sphère de la redistribution, mais il faut aller en amont pour agir sur les inégalités, sur les choix technologiques et notamment sur la distribution du capital. Et c'est pour cette raison qu'il dit l'idée de proposer un héritage minimum que chacun pourrait percevoir, avoir accès à l'âge adulte, c'est une façon de introduire un minimum d'égalité et donc de réduire les inégalités.
Et il le financerait en taxant de façon progressive les héritages par ailleurs.
Oui, il fait référence à John Stuart Mill, hein, qui formulait, qui est donc un économiste du 19e siècle, il faut le rappeler, qui formulait la même proposition au milieu du 19e siècle, un économiste utilitariste très classique, enfin bon. Et lui, ce qu'il propose, enfin sa formule finalement, qui a sa préférence, c'est, alors, il dit, il faut pas taxer ce que l'on donne, mais ce qui est reçu. En général. Et donc, ça voudrait dire avoir une sorte de compte où, pour chaque individu, on aurait tout ce qu'il a reçu comme héritage. Et au-delà d'une certaine limite, on commencera à taxer. Et effectivement, ce serait financé par une taxation progressive.
Et alors, d'où lui vient cette idée d'un revenu de base pour les enfants? C'est l'une de ses idées peut-être les plus originales, Pierre Contialdi?
C'est une idée qu'il a défendue depuis longtemps. Je pense que son idée de dire on accroche cette idée de revenu de base déjà pour les enfants, personne ne pourra le contester. Parce qu'il est incontestable, parce que personne ne peut contester que quand on a un enfant, bah, il faut donner les mêmes chances à tous. Et que la question de la désincitation ne se pose pas pour eux.
Alors, dans une dernière partie, Atkinson anticipe les objections qui pourraient lui être faites, et notamment cette idée selon laquelle la redistribution réduirait la taille du gâteau, c'est-à-dire le montant total des revenus d'un État. Quelle est la réponse d'Atkinson à cette critique qu'il se formule à lui-même, en quelque sorte?
La critique, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux dilemme, comme disait l'économiste, entre équité et efficacité, et que si on veut accroître l'équité, on perd en efficacité. Ce que répond Atkinson, c'est que tout ça serait vrai, encore une fois, dans le monde irréaliste des manuels, mais que la question se pose différemment, parce qu'on ne peut pas faire table rase de la société et des institutions dans lesquelles on vit. Et si on prend en compte cette réalité, alors il y a de multiples chemins possibles, et il y a de multiples équilibres. Et il illustre ça par plusieurs exemples tirés de champs spécifiques de l'analyse économique, notamment le marché du travail et ce qu'on appelle la théorie du salaire d'efficience. Salaire d'efficience qui contredit l'idée qu'il y aurait pour chaque personne, travailleur, une productivité donnée et que donc il faudrait que le salaire s'ajuste à cette productivité. Hein, ce que dit Atkinson et ce que dit cette théorie, c'est que ça n'est pas vrai. Si on augmente le salaire, la productivité peut augmenter. Et ce que dit Atkinson, ce que dit cette théorie, c'est que proposer un salaire au-delà du salaire minimum permet d'établir un échange. Donc il y a un jeu gagnant-gagnant, enfin, qui existe aussi dans la réalité, parce que certains employeurs raisonnables pratiquent ça, qui fait qu'on n'a pas forcément ce dilemme, et qu'au contraire, on peut avoir encore une fois ce jeu gagnant-gagnant.
Pour conclure, Pierre Contialdi, quel est l'héritage de la pensée d'Atkinson? Qu'a-t-il apporté à la discipline économique, selon vous?
Il a apporté de la rigueur, il a apporté l'humilité, qui manque souvent peut-être à certains économistes. Puis je pense qu'il apporte aussi évidemment cette dimension morale, c'est-à-dire l'économie, c'est pas uniquement de produire, hein, c'est aussi des finalités. Et c'est en fonction de ces finalités qu'on doit évaluer l'action économique et les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre.
Merci beaucoup, Pierre Contialdi, de nous avoir fait découvrir cet ouvrage d'Anthony Atkinson, Inégalité, paru au Seuil il y a 3 ans. L'économiste britannique nous a quitté le 1er janvier 2017, laissant derrière lui une cinquantaine d'ouvrages de référence. Et l'un d'entre eux figure désormais en bonne place dans notre bibliothèque idéale de l'écho. Un grand merci.